Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT du Rétro Gaming. Pour cette quatrième émission, on vous propose bien sûr, comme d'habitude, le test de MEA, le Rétro Dico, le dossier du mois, la vidéo du web et la présentation d'une console. Mais on commence bien sûr tout de suite avec les news. Et c'est suffisamment rare pour vous le signaler, une nouvelle salle d'arcade va ouvrir ses portes début février à Lille. Son nom, Akedo. Vous y retrouverez bien sûr des bornes d'arcade avec des grands classiques comme Street Fighter ou Tekken, mais aussi des consoles rétro, des 8 bits jusqu'aux 128 bits. Retro Taku ira en tout cas jeter un œil et vous ramènera des images pour vous présenter cette salle dès son ouverture. Plus d'infos sur akedo.fr. Nous, on continue tout de suite les news en images.
Capcom brosse ses fans dans le sens du poil. En plus d'avoir organisé des tournois mondiaux sur Street Fighter à l'occasion des 25 ans de la série, ils viennent de sortir gratuitement Street Fighter X Megaman. Ce crossover, inattendu, reprend les bases des premiers Megaman, à savoir de la bonne vieille plateforme 8 bits avec 8 boss envoyés par le Dr. Willy. Sauf que cette fois, le petit robot bleu devra combattre les personnages de la série Street Fighter et ainsi récupérer de nouveaux et exclusifs pouvoirs empruntés aux attaques spéciales des combattants. Le MSX fut un standard de micro-ordinateur domestique des années 80, un peu comme le PC aujourd'hui. Bon nombre de fabricants comme Canon, Sony ou même Philips ont produit leur propre MSX. Certaines séries réputées comme Metal Gear ont débuté sur ce support que beaucoup de programmeurs amateurs affectionnent encore. C'est le cas d'Oscar Toledo, dont le jeu Mecha 8 est maintenant disponible en version cartouche. Ce shoot'em up en scrolling vertical a d'ailleurs fini 5e à un concours de développement de jeu MSX en 2011. Redox Dark Matters est un shoot'em up prévu tout d'abord sur Dreamcast, puis sur iOS, PC, Xbox Live Arcade et PSN si tout va bien. Les développeurs n'en sont pas leur coup d'essai puisque certains ont déjà participé à Gunlord et d'autres aux mythiques Turrican et Airtype. La campagne Kickstarter pour lever des fonds leur a permis de faire décoller le projet. Pour remercier les fans, l'équipe vient de donner accès à une démo jouable sur PC qui vous permettra de vous faire une idée sur cette petite merveille, au graphisme très fin et au gameplay efficace. Sortie prévue fin 2013. Avant la 3DS, Nintendo a produit dans les années 90 la Virtual Boy. Cette machine permettait, grâce à la présence de deux écrans monochrome rouges, d'avoir un effet 3D. Les migraines étaient d'ailleurs garanties au bout de 15 minutes de jeu. La fin rapide de la console, à cause du flop commercial, fit annuler la sortie de nombreux jeux. C'est le cas notamment de Bound High, d'abord annulé, puis retrouvé en 2010. Depuis décembre 2012, le jeu est disponible en version cartouche pour la modique somme de 57€, quand même. Civia Games vient enfin de sortir son jeu de plateforme action en version cartouche sur NES, Battle Kid 2. Le développement a duré plus de 2 ans, il vous en coûtera 36$ sans les frais de port pour le jeu, sa boîte et sa notice. A noter qu'une démo fonctionnant sur émulateur est téléchargeable sur le site internet du développeur. Vous aimez l'Amiga et vous avez envie de vous faire une partie rapide sans vous prendre la tête? Scripted Amiga Emulator est fait pour vous. Il permet de faire tourner des jeux mythiques comme Prince of Persia, Another World ou encore Turrican directement depuis votre navigateur web. Oui, sans rien installer. Pour l'essayer, rien de plus simple, allez sur leur site web avec un navigateur compatible HTML5, sélectionnez votre jeu ou votre démo et cliquez sur Play. Il est recommandé d'utiliser Google Chrome ou Firefox pour de meilleures performances.
Que ce soit à la télévision, au cinéma ou au dessin animé, le western est un genre à grand succès jusque dans les cours d'école de nos petits bambins. Il était donc normal que les jeux vidéo s'intéressent aux Indiens et aux cow-boys. C'est pour ça que ce mois-ci, notre pistolero du vidéotest MEA nous propose un jeu Sunset Rider sur Super Nintendo. Attention, va falloir dégainer plus vite que son nom.
Sorti en 1991 d'abord en arcade, puis 2 années après sur Super Nintendo et Mega Drive, en 3 versions différentes donc, Sunset Rider c'est un must absolu. Je sais, je vous spoil déjà la fin du test, mais imaginez Probotector avec des cow-boys. Ok? Eh bien ajoutez-y la glissade de Mega Man 3. 4 personnages à choisir, un mode 2 joueurs et un mexicain rose, et vous obtiendrez Sunset Riders. L'histoire est assez simple, vous êtes un chasseur de primes qui chasse... des primes, voilà, c'est tout. Vous avez le choix entre 4 personnages, donc chacun présenté épiquement dans une cinématique avec deux styles de tir différents. Le jeu consiste donc à atteindre le boss de chaque niveau en évitant les balles qui sifflent et en défouraillant tout ce qui se passe à portée en passant par les clichés du Far West, style John Wayne avec les chemises à franges, là, les costumes flashy. On commence dans une ville typique assaillie par les cowboys et autres troupeaux de bœufs, en n'oubliant surtout pas d'aller faire un tour au saloon pour rencontrer la faune locale. Salut! Les niveaux suivants nous enverront jusqu'à la maison d'un grand méchant, en passant par des passages à cheval assez galères, l'attaque chez les Indiens sans les Indiens. Ouais, nous sommes chez Nintendo tout de même. Hein. Bon, vous allez me dire, et le boss, il est pas indien lui peut-être? Peut-être, mais il ne fait que suivre les ordres, donc on ne tue pas, hein. On a le respect des locaux. Bon, par contre, les femmes, elles se font un peu jeter méchamment. Ce jeu est épique, que ce soit via les niveaux bonus également, avec un tir sur cible vivante, les pauvres, mais ils avaient qu'à pas apparaître dans les lignes de mire aussi. Les différents boss, chacun présenté via une affiche, sont tous épiques également, hein, même si mon Gridwell, le premier, se présentant sans jambes, avec une voix sortie d'outre-tombe. Il y a aussi Dark Horse, qu'on pourrait traduire par noire voiture de nos jours. Paco Loco, qui, lui, je sais pas d'où qu'il vient. Et si Richard Rose, le bourge de Médoc, qui est le patron de tout le monde, vit tout là-haut dans sa montagne, dans une maison placée sous le signe de la Vierge. Ouais, c'est visiblement un fan de Saint-Célia, le monsieur. Et qui est capable d'arrêter une rafale de fusil de chasse avec un simple bastron de fer, moi je dis beau gosse. Bref, des musiques épiques, une intro épique, des persos épiques, un cheval rose. Sunset Riders sur Super Nintendo est méga classe et assez chaud à trouver. Notons également qu'il n'existe étrangement pas de version japonaise de ce jeu alors que c'est Konami quand même. En plus, ils ont jamais fait de suite. On va comprendre.
Et pour notre dossier du mois, je me suis rendu en région parisienne à la Elche Convention 2.0, une convention de passionnés de jeux rétro. J'ai le plaisir d'y rencontrer Mea, Florent Gorge, Carole Quintaine et Elche, le bienheureux organisateur de cet événement. On les écoute.
Le 8 décembre dernier, à Villejuif, c'était la deuxième édition de la Elche Convention, le rendez-vous des fans de rétro gaming. À l'origine de cet événement, un homme, Edge, et une passion, le jeu vidéo.
Alors pourquoi cette convention? Tout simplement parce qu'une rencontre entre gamers, c'est magique. J'ai toujours voulu en faire une. Ça a été l'un de mes rêves parmi tous mes délires vidéoludiques. Donc ça, c'est fait. Je peux mettre une petite croix à côté. J'aimerais faire un magazine plus tard aussi, c'est en cours. Et l'autre projet que j'avais, c'était un site, et ça, c'est fait. Donc voilà, 2/3, je pense que c'est pas mal.
Conférences, expositions, rencontres, tournois, projections, le programme est chargé. Edge a aussi fait venir des invités d'honneur, comme Mea, vidéotesteur, qui sévit aussi dans votre JT.
Là, vous nous invitez une deuxième fois, comme ça s'était bien fait la première fois, et que je sais qu'il y avait plein de bornes, des jeux rétro à prendre, qu'il y avait plein de consoles, des machines. Il y a un CDI, il y a une PC Engine, enfin il y a plein de machines, et du coup je savais que j'avais passé du bon moment, et puis donc voilà. L'Edge Convention, enfin, je suis pas encore déçu. Deuxième fois, pas déçu.
Des consoles et des bornes d'arcade pour jouer toute la journée, mais aussi un peu de lecture avec la présence de Florent Gorge, un auteur reconnu.
Je suis à cette convention Edge pour promouvoir en fait les livres que je rédige, parce que je suis traducteur, interprète, et puis aussi auteur de livres sur l'histoire du jeu vidéo, et notamment l'histoire de Nintendo. Donc je suis là pour présenter mon travail d'auteur sur l'histoire du jeu vidéo.
Et dans cet univers très masculin, on retrouve une autre invitée, la blogueuse et animatrice jeux vidéo, Carole Quintaine, ravie de se replonger dans son passé de gameuse.
Moi, je suis venue effectivement, Edge m'a invitée donc à cette convention pour que j'anime un petit peu, que je mette un petit peu de, on va dire, de piquant dans cet après-midi dédié au rétro gaming, mais également au tournoi Call of Duty dont je vais animer la finale à 18h. Mais je suis également fan de rétro gaming, donc je pense que c'est aussi pour ça que Edge m'a invitée, parce que c'est vraiment ma cam. Là, j'ai l'impression d'être à Euro Disney, quoi. Les bornes de jeux, les nerfs, les Super NES, on peut acheter plein de jeux, on peut acheter plein de trucs d'avant, quoi. Enfin, ça me rappelle vraiment mon enfance et beaucoup de bons souvenirs.
Comme Carole, ils étaient presque 200 à participer à la Edge 2.0, mais pour l'instant, pas de 3.0 en vue, à moins que des sponsors se manifestent. Alors, avis aux amateurs.
Allez, vous le savez désormais, tous les mois, on vous présente une console, son histoire et ses principaux jeux. Ce mois-ci, on vous propose de découvrir ou de redécouvrir la Nintendo 64 ou encore la dernière console de salon à utiliser des cartouches. On est parti.
La Nintendo 64 est une console 64 bits sortie en France le 1er septembre 1997, soit 2 ans après la PlayStation et la Saturn. Elle était disponible au prix modique de 990 francs. Elle fut la première console de salon à incorporer 4 ports manettes en façade et la dernière à faire fonctionner ses jeux sur cartouche, alors que ses concurrentes étaient déjà passées au format CD-ROM. Un choix de Nintendo pour lutter contre le piratage et faire disparaître les temps de chargement, mais qui augmentait le prix de vente de ses jeux. Sa ludothèque contient des titres qui ont fait évoluer le jeu vidéo comme Super Mario 64 ou Zelda Ocarina of Time. Il fallait aussi compter sur des titres multijoueurs comme Super Smash Bros, Mario Kart 64 et GoldenEye, qui offraient la possibilité de jouer à 4 simultanément. Autre originalité de la Nintendo 64, la manette en forme de trident. Elle permettait 3 prises en main différentes et disposait d'une croix directionnelle classique, accompagnée d'un stick analogique précis. Le port sous la manette pouvait accueillir des cartes mémoire, des kits de vibration, mais aussi le transfert pack, utilisé pour communiquer avec certains jeux de Game Boy comme Pokémon. Dernière particularité, les ports d'extension, le capot avant destiné à l'expansion pack qui doublait la mémoire, indispensable pour certains jeux gourmands, comme Donkey Kong 64, Perfect Dark ou Conquer Bad Fur Day. La trappe arrière était destinée à un lecteur de disque magnétique, le 64DD, jamais sorti en dehors du Japon. Ce sera finalement un succès plutôt en demi-teinte pour la Nintendo 64, dont le support cartouche a fait fuir beaucoup d'éditeurs et a donc empêché sa ludothèque de s'épanouir chez d'autres développeurs.
La vidéo du mois nous présente une partie de Mario Kart in real life. Enfin, dans la vraie vie, quoi. Enfin, le plus simple, c'est de regarder les images, vous comprendrez. Abandonware. Non, non, c'est pas une insulte. Vous connaissez pas ce mot? Eh bien, rassurez-vous, le rétro déco va vous l'expliquer et c'est en 45 secondes chrono.
Un Abandonware est un jeu vidéo qui n'est plus édité ni commercialisé et ne bénéficiant plus d'aucun support après-vente. Il est alors considéré comme abandonné ou orphelin. Des sites internet proposent des jeux en téléchargement gratuit, considérant qu'il faut en faire profiter le public. Mais qu'en pensent les éditeurs? Leur tolérance varie. Certains laissent complètement tomber leurs produits, tandis que d'autres vont empêcher la mise à disposition de leurs vieux jeux, comme peut le faire LucasArts. Même s'ils sont gratuits, les abandonware ne sont pas pour autant mauvais. On peut retrouver des pépites comme Flashback, Worms, Turrican, Street Fighter 2 ou encore The Lost Vikings. Certains éditeurs proposent eux-mêmes leurs anciens jeux gratuitement plutôt que d'en tirer profit sur les plateformes de jeux dématérialisées. Nous pouvons citer Rockstar Games avec leurs mythiques GTA et GTA 2. Voilà une bonne façon d'alléger votre facture vidéoludique. Alors maintenant, à vos téléchargements, à vos claviers et à vos manettes.
Et c'est ainsi que se termine ce numéro de RetroTaku. Merci à tous de nous suivre. Si vous souhaitez nous faire part d'un événement ou d'une remarque sur notre JT, n'hésitez pas, il suffit de nous envoyer un mail, jt@retrotaku.com. Et n'hésitez pas non plus, bien sûr, à visiter notre site internet, retrotaku.com. Moi, je vous dis au mois prochain. Ciao.